Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission numéro 1 du jeu vidéo en France, dans la catégorie des podcasts qui stream en live sur Twitch le jeudi de midi à 1h. Nous sommes très fiers d'être l'émission préférée des Français dans cette catégorie un petit peu niche, mais il n'empêche qui est quand même prestigieuse. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Béja et je suis accompagné de mon ennemi de toujours, Daniel Charby. Comment ça va, Dany ?
Hello, bah écoute, ça va très bien.
Oh, zut.
C'est toujours un déplaisir que de te parler. Et je voulais dire que si, t'es le premier podcast parlant du jeu vidéo dans sa tranche horaire en France. Je peux dire que c'est aussi le cas en Angleterre.
Donc, bon
succès
merci.
Quand même.
Donc, succès international.
Européen, grave, oui.
C'est oui, oui.
Impressionnant.
Et on attend que les gens de la chatroom nous disent d'où ils nous écoutent pour confirmer qu'on est également premier dans leur pays.
Je pense qu'on est
également.
Pas mal en Suisse aussi là-dessus. Hein,
Non, mais en fait, il faut prendre des pays où on ne parle pas trop le français, parce que s'il y a du français, on a des possibilités d'avoir de la concurrence.
Ouais, c'est sûr.
Mais enfin, bon, on plaisante, mais je pense que le rendez-vous jeu est plutôt un podcast, l'un des podcasts de référence. Moi, mon ambition, ça a toujours été d'en faire le podcast de référence du jeu vidéo. Et en fait, mon but, ma stratégie pour ça, c'est comme pour le rendez-vous tech, bon, essayer de faire les choses bien sérieusement, etc. Mais surtout, durer plus longtemps que les autres. Donc, c'est mon idée. Les petits gars de ZQSD, ils continuent, mais ils n'ont jamais été hyper réguliers. Donc, je me dis, OK, on peut être en concurrence. Il y a quand même Silence on joue et Erwan Cario qui, malgré les difficultés et les changements, continue à faire son émission depuis un petit peu plus longtemps que le rendez-vous jeu. Mais un jour, il finira par ne plus en pouvoir, peut-être.
Mais... Mais quand tu dis durer plus longtemps que les autres, si tu veux, on fait des podcasts de 5 heures comme ça. On les a à l'usure. Regardez comme on est long.
Exactement. Ça sera la stratégie 2022. Parce que 2021, je vais être un petit peu occupé à partir d'avril. Donc, il ne faut pas faire de gros changements, on va dire. On va parler de Steam et d'autres constructeurs, d'autres développeurs qui se sont fait condamner par la justice européenne. On va aussi parler des énièmes excuses de CD Projekt pour Cyberpunk 2077. On va aussi parler de mon nouveau PC qui est absolument incroyable et je vais vous parler des petites difficultés que j'ai avec. Là, je suis encore sur l'ancien pour enregistrer. Mais avant ça, je voudrais remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon et remercier très spécifiquement ceux qui sont comptés aujourd'hui, c'est-à-dire Marc Verdier, William Lévival, Chulrac, dont vous avez déjà entendu le nom parce qu'il est producteur et on va le rementionner dans un instant, Johan S., Florian, Arnaud, Frédéric Noël, Bebs, Alexandre Johnson. Alexandre, ça me donne l'occasion de te demander la prononciation de ton nom. Est-ce que c'est Johnson ou Chonsen ou Chonsan ou... J'imagine Johnson, hein, je me dis que c'est un nom asiatique, mais tu pourras me le confirmer. On a déjà interagi à plusieurs reprises avec Alexandre et Alexis Anquetil, à vous tous, un grand, grand merci de contribuer à la production de cette émission. Et puis, les producteurs qui ont leur nom mis en lettres d'or au début de cet épisode et de tous les épisodes, puisqu'ils contribuent de manière significative à son existence, à savoir Lancelot Davizard et Chulrac, qui sont, je dirais, un petit peu les Valve et les CD Projekt du monde du podcast gaming. Une force absolument incommensurable, mais contrairement à ces autres sociétés, ils usent de leur pouvoir pour faire le bien. Donc un grand merci à Lancelot Davizard et Chulrac. Bon, première chose dont je voulais vous parler, c'est le PC que j'ai enfin reçu. Ça fait des semaines et des mois que je vous en parle parce que je l'ai commandé il y a un moment. Mais les pénuries étant ce qu'elles sont, les ruptures de stock étant ce qu'elles sont, il a fallu non seulement que je downgrade mon PC avec le processeur qui n'est plus un 5900X dans les Ryzen, mais un 5800X qui est un bien moins bon rapport qualité-prix. On pourra en parler un petit peu plus dans l'after show. Je pense qu'on va peut-être faire un petit sujet sur ça et les détails de tout ça avec les Patriotes, mais qui viendra donc en fin d'émission. Mais à côté de ça, s'il est très puissant, j'ai quand même eu des gros soucis, pas tant matériel, mais en logiciel, des trucs absolument... Peut-être un peu de ma faute, mais en fait... Alors, j'ai un peu honte, c'est le moment confession. Vous savez que je suis complètement obsessif-compulsif sur certains trucs. Il y a des choses qui m'obsèdent complètement si ce n'est pas exactement comme je veux qu'elles soient. Et dans mon PC, il y avait un truc comme ça. Quand on crée le compte sous Windows dans le PC, il y a un répertoire dans le répertoire utilisateur. Il y a un répertoire qui est normalement le répertoire dans lequel on stocke certaines des données qui vous sont associées, qui est le répertoire avec votre nom. Et là, au lieu d'avoir Patrick comme nom, il y avait Patrie. Les cinq premières lettres. Et je voulais que ça soit Patrick. Et évidemment, c'est un répertoire du système. Donc, pour changer le nom, il ne suffit pas de juste changer le nom du répertoire. Il faut aller farfouiller dans la base de registre. Il faut faire des changements un petit peu partout. Je me suis dit, rien à foutre, je vais le faire quand même. Et du coup, je l'ai fait. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai des petits soucis. Et je me suis déjà lancé dans les installations de les trois quarts des logiciels, donc je n'ai pas envie de le refaire. Ça m'a pris une demi-journée. Mais il y a deux choses qui, je ne pense pas, sont liées. Mais d'une part, mon logiciel de... comment il s'appelle ? Mon logiciel de table de mixage virtuel a des petits soucis. Ça, c'est assez embêtant. Mais il y a un autre truc, c'est que la... licence de mon Xbox Game Pass Ultimate, merde. Et dans l'application Xbox, il ne reconnaît pas que j'ai la licence Game Pass Ultimate. Alors que je suis bien connecté avec le bon compte, je me suis déconnecté et reconnecté mille fois. Il y a visiblement des gens qui avaient eu le problème dans une version précédente de l'application, et là, ça me le fait, et je ne sais pas pourquoi. Et même quand j'essaye sur un autre ordinateur, ça me fait le même problème. Bref, je ne peux pas utiliser mon Game Pass Ultimate sur PC par l'application Xbox. Je peux quand même télécharger les jeux par le store Microsoft, ce qui n'est pas génial. Je n'aime pas le store Microsoft, mais bon, on peut le faire. Le problème, c'est que je me suis dit, machine super puissante, RTX 3070, Ryzen série 5, etc., avec 32 gigas de RAM, un SSD de 2 gigas, un disque dur de 10 gigas, un disque dur classique. Enfin, je me suis fait une grosse bête professionnelle, quoi. Eh bien, je lance le download de Flight Simulator, il s'installe, et quand on lance le jeu la première fois, il doit downloader 129 gigas, et il ne download pas. Il tourne dans... Ah ben, il y a des gens dans la chatroom qui disent qu'ils ont le même problème. Softcedo, si tu trouves une solution, dis-moi, parce que j'ai cherché partout, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Et Flight Simulator, je lance Flight Simulator, il doit télécharger une grosse update... Il ne télécharge pas. Il commence avec une vitesse de chargement déjà assez faible et il arrive à zéro en une trentaine de secondes et il ne veut pas charger. Et à chaque fois que je le relance, il refait la même opération. Donc, il a chargé genre deux fichiers de 5 mégas et c'est tout. Et j'ai cherché pendant des heures comment faire ça. Impossible d'avoir le truc. Donc, je suis hyper énervé contre Microsoft en ce moment. Et je ne pense pas que ça soit parce que j'ai fait cette opération avec le répertoire Patrick changé, enfin Patrick changé en Patrick, mais je n'ai pas vraiment envie de tout recommencer à zéro pour tester si c'est ça, surtout que je ne pense pas que ça soit ça. Bref, je suis hyper frustré avec tout ça. Les joies des PC, je suis bien content de ne pas l'avoir monté moi-même parce que s'il avait fallu ajouter les prises de tête d'un montage de PC en plus de toutes ces prises de tête-là, je crois que j'aurais juste décidé de ne pas changer de PC. Et entre parenthèses, j'ai aussi lancé Cyberpunk. Et alors j'ai joué 5 minutes parce que j'avais d'autres choses à faire. J'ai pas l'impression que ça soit totalement fou au niveau graphisme. Hein. sympa et je suis bien en ray tracing ultra, machin, ça tourne super beau, en je sais plus combien de 60, 80, 100 FPS. Mais, comment dire, c'est beau, mais c'est pas non plus les yeux qui explosent en regardant ça, quoi. Je sais pas, Dany, si toi, t'as un gros PC qui te permet de tester ce genre de choses.
Alors ouais, j'ai un gros PC, un méga gros PC. Par contre, Cyberpunk, en fait, je l'ai eu sur PlayStation.
Ah, donc tu l'as pas testé sur
ouais,
sur PC.
Et bon, globalement, ça va, c'est pas laid, mais pour moi, Red Dead Redemption 2, par exemple, était
oui,
franchement
mais...
plus impressionnant.
Non, non, bien sûr, mais Cyberpunk sur PC... Cyberpunk sur console, c'est pas la même chose que sur PC, donc ça compte pas, quoi. Mais bon, écoute... Donc voilà mes aventures.
Je me tâtais à le prendre sur PC en fait, Cyberpunk, mais en lisant les reviews, et par exemple j'ai lu un tweet hier de Joueur du Grenier qui disait en substance bah, j'ai fini le jeu, toutes les side quests machin etc, et le scénario est sans plus quoi, c'est pas super intéressant. Bon. Et ça m'a un peu refroidi en fait sur le rush de l'acheter maintenant tout de suite, ou alors d'attendre quelques mois qu'il soit genre à 5 balles sur Steam, et avec toutes les updates, les fixes, les mises à jour et les trucs, pour qu'il fonctionne correctement. Mais pour l'instant effectivement...
Ouais.
Je ne l'ai pas vu sur PC. Je pense qu'il doit être beaucoup, beaucoup mieux, évidemment.
Ah bah oui, oui, il est beau, mais... Enfin bon, c'est encore... J'étais énervé avec ces histoires de Microsoft.
Ouais.
Et donc, j'ai dit, ah, de toute façon, c'est de la merde. Je déteste mon nouveau PC. Bon, il va falloir. C'est comme d'habitude. En fait, le plus frustrant dans cette histoire, c'est que je me disais, maintenant, c'est bon, tout va tourner, tout est... Et 99% des trucs tournent sans problème, en fait. C'est pas vraiment des gros problèmes. Le PC, il est arrivé monté, il fonctionne bien... Tout tourne, mais les quelques trucs qui tournent pas, c'est juste en gros Flight Simulator et l'application Xbox, qui d'ailleurs sur le papier est encore en bêta, mais bon, et ben ça me frustre énormément, et du coup je me dis, ah, je déteste tout. Mm-hmm. Donc, bon,
voilà. Mais tu veux un exemple de truc hallucinant qui se passe sur PC ?
Dis-moi.
Donc, j'ai un PC avec Bluetooth, tout marche bien. Un jour, le Bluetooth ne marche plus. La carte Bluetooth disparaît de Windows qui ne la trouve pas. Sans raison, hein. Et voilà. Et ça a pris des heures et des heures de recherche pour trouver comment résoudre le problème. Ok.
T'as réussi au final ?
Oui, oui, j'ai réussi au final. Donc la carte Bluetooth n'a aucun problème. C'est juste Windows, un jour, il s'est dit j'ai arrêté de la détecter. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas.
Je crois que c'est les joies des vrais joueurs qui... tu sais, c'est les baroudeurs, c'est les gens qui ont fait le Vietnam, tu vois. C'est des... Quand on joue sur PC, on a les joies de nos difficultés, on a les mains dans le cambouis, on n'est pas des amateurs qui ont tout directement dans la bouche comme un petit oisillon que leur papa et leur maman nourrissent. Nous, on est des vrais, tu vois. C'est bon, c'est ce que
ouais,
j'essaie de dire pour me
c'est
conforter.
Bon, quand je me dis, bon, je vais peut-être jouer un peu aujourd'hui sur PC et tout, t'es jamais sûr si tu vas vraiment jouer ou si tu vas passer ton temps à essayer de résoudre un problème. Hein.
Sur PC, t'es jamais sûr si tu vas vraiment jouer. Je crois que ça va être le titre de l'épisode. Il est,
voilà.
Il est très très bien. Bon, donc. Voilà pour nos histoires de PC. On en parlera peut-être un peu plus dans l'after show, comme je le disais. C'est du coup le moment de parler de l'actualité, et plutôt que de commencer par les mauvaises nouvelles de Cyberpunk, ou en tout cas les excuses renouvelées de Cyberpunk ou de CD Projekt, on va dire, parce qu'on est, franco et anglophone, les mésaventures de Steam et d'autres développeurs en Europe, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, la Commission européenne a décidé de mettre une amende sur plusieurs des développeurs, et notamment Valve et Steam, du coup, qui n'ont pas collaboré avec la Commission. Pourquoi ? Parce qu'ils ont imposé un blocage sur certains jeux en collaboration avec des développeurs, plutôt des éditeurs, à savoir Bandai Namco, Capcom, ZeniMax, Koch Media, Koch Media et Focus Home Interactive. Alors, c'est des amendes qui vont de quelques centaines de milliers d'euros à 1,6 pour Valve, parce qu'ils n'ont pas coopéré, justement. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement de coopérer avec la Commission européenne, mais j'imagine qu'ils n'ont pas répondu aux emails, peut-être. Mais donc, ce qui s'est passé, le problème, c'est que Valve vend des jeux et il est possible d'utiliser des clés qui correspondent à l'activation d'un jeu en numérique. Et on peut acheter ces clés qui sont utilisées de différentes manières, vendues sur certains sites, distribuées par les éditeurs ou par d'autres moyens. Et le truc, c'est que les prix de ces jeux ne sont pas les mêmes dans différents pays, et notamment dans différents pays de l'Union européenne. Dans ce cas précis, on parle de la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Donc en gros, les anciens pays du bloc de l'Est, à peu de choses près, qui ont des niveaux de revenus, j'imagine ne pas me tromper, plus modestes que ce qu'on trouve plus à l'Ouest. Et donc, il y a des prix qui sont différents. Le truc, c'est que dans le marché européen, on est censé avoir un marché unique qui favorise la concurrence sur tout le marché. Et donc, on ne peut pas empêcher un ressortissant de l'Union européenne d'acheter un produit dans un autre pays de l'Union européenne. Et ça revient à de l'interdiction d'achat, donc du géoblocking. Donc, c'est interdit par la loi européenne. Ça concerne des faits qui ont eu lieu entre, on va dire, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est entre 2012 et 2018, je crois, ou 2010 et 2018, il y a deux affaires séparées. Peut-être même un petit peu avant, ça a commencé en 2007, et puis ça s'est terminé en 2018 avec deux affaires séparées. Et c'est un sujet qui est hyper intéressant, je trouve, parce que non seulement c'est une question qui a pu se poser par le passé, mais c'est également une question qui se pose aujourd'hui avec le marché gris, qui est le fait d'acheter de récupérer des clés dans un pays où elles sont vendues moins chères et de les revendre dans des pays où elles sont généralement vendues plus chères. C'est-à-dire qu'on a différentes sociétés qui font ce type d'opération, des sociétés, vous connaissez certainement les magasins en ligne qui le font, qui ont une réputation moyenne à cause de cette question de marché gris. Certaines ont d'autres problèmes, c'est pas de ça qu'on parle, mais spécifiquement la question du marché gris. Et là, ce que ça dit, c'est que ça reconfirme, ça réaffirme la validité du marché gris, en fait, la légalité du marché gris. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'est pas... Enfin, je suis sûr qu'un juriste ou quelqu'un qui connaît spécifiquement la loi aurait pu nous dire « Si, le marché gris, c'est parfaitement légal, c'est normal, on a le droit de le faire. » Là, ça confirme aux yeux de tous que le marché gris, c'est même pas vraiment un marché gris, quoi. C'est juste le marché unique qui autorise ce genre de choses. Alors, je précise que ces boutiques qui vendent ces clés venues d'autres pays peuvent le faire parce qu'elles ne sont pas bloquées. Le marché gris est souvent regardé avec un froncement de sourcils de la part des éditeurs, mais les clés ne sont pas bloquées. Il est possible d'acheter des clés dans d'autres pays et de les vendre dans le pays où vous voulez, par Internet évidemment. Là, on parle de clés qui étaient spécifiquement bloquées. Donc, si vous achetiez une clé en Pologne, au hasard, et que vous vouliez l'activer avec un compte qui est identifié comme en France, c'est généralement avec la carte de crédit que la localisation est identifiée, mais pas que, vous ne pouviez pas l'activer, c'était bloqué. Ça, c'est ce qui est reproché à ces éditeurs. Donc, les activations du marché gris sont possibles, c'est le fait de l'avoir spécifiquement bloqué qui est une instance assez rare. Du coup, qu'est-ce que tu penses, Dany ? C'est la confirmation du fait que, enfin, c'est clair, quoi, le marché gris n'est pas si gris que ça. C'est un marché blanc, je sais pas.
Ça reste du marché gris, tu vois, à mon avis. Mais en contrepartie, l'Europe a tranché là-dessus, et je pense que c'est une bonne chose parce que finalement, on a un marché unique. Donc ensuite, c'est aux éditeurs.
Toi, t'y es
ouais,
plus.
Ouais, bon, j'étais dans un marché unique. Mais
bon, en même temps, t'as ton passeport français quand même, donc tu peux dire.
Voilà,
ça va.
J'ai encore. Ouais, c'est indéfini. Encore plus. Complètement exclu. Ouais. Mais globalement, enfin voilà. Bon, je pense que ça va pas changer la face du monde parce que c'est quand même quelque chose qui existait depuis longtemps. Qui continuera à exister, et ça existe aussi sur tout, hein, le matériel informatique, etc. Enfin, ouais. C'est pas, enfin, le marché gris existe depuis Mathusalem, mais je pense que là, au moins, il y a eu, enfin, ces revendeurs offraient une facilité pour obtenir des clés sans avoir besoin de parler polonais ou je ne sais quelle autre langue. Ouais. Et franchement, et en plus de apporter un minimum de sécurité à la transaction. Donc je pense que globalement, c'est une bonne chose. Et ensuite, effectivement, bah, si les éditeurs ils doivent revoir leur stratégie de pricing pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart énorme, bah, écoute, voilà. Et c'est ensuite aux gens de décider, bah, par exemple, tu vois, s'il y a un écart de prix de 5 euros entre la clé française et une clé polonaise, bah, c'est aux gens de voir s'ils veulent prendre le risque ou pas pour 5 euros. Mais si l'écart est du simple au double, par exemple, bah, effectivement, personne ne va se poser la question.
Bah, le danger, à mon avis, est assez inexistant parce que tu as acheté une clé polonaise, tu as quand même activer ta clé sur Steam, et c'est comme si tu l'avais acheté en France. Je pense pas que...
Oui, bien sûr, mais tu passes par des revendeurs tiers, alors que finalement, l'acheter directement sur Steam, t'as aussi tout ce qu'apporte la plateforme en elle-même.
Le fait,
c'est débattable, disons.
Ouais, tu l'as acheté sur Steam, enfin tu l'as acheté ailleurs, mais tu l'as activé sur Steam, donc il y a pas de, je vois pas comment ça pourrait, tu vois, il va pas y avoir de service après-vente, à moins que la clé ne s'active
c'est un problème. J'ai acheté ces clés, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est des services après-vente, de customer service, etc. J'ai moi-même acheté des clés, enfin pas beaucoup, hein, peut-être 2-3 par le passé sur ces services. Ça s'est toujours bien passé, mais le temps de recevoir l'email avec la clé, le code, etc. J'étais toujours un peu inquiet sur la validité, la fiabilité du service.
Ouais, c'est vrai. Et puis ensuite, il y a d'autres problèmes avec ces clés, avec des revendeurs dont on ne va pas citer les noms, qui sont encore autres que ceux du marché gris classique, on va dire. Il y en a qui sont super clean, qui font que ça. Il y en a qui, on en parlera peut-être un jour, mais il y en a qui font des choses pas super clean. Mais la question que tu évoques est en fait la question centrale du sujet, la plus importante, c'est qu'est-ce qui va devenir du prix ? Est-ce que, enfin, bon, le marché existe depuis longtemps et les prix sont clairement différents et les éditeurs survivent et survivent très bien. Mais le prix, s'ils doivent le fixer à peu près unique en Europe, parce que contrairement à un matériel, un ordinateur ou un truc physique, bah, on n'a pas besoin de l'envoyer, de le transporter, et on n'a pas besoin de l'assurer de la même manière. Le service après-vente, ce n'est pas la même chose si on a un truc qui est défectueux, bien sûr, si c'est un truc physique. Mais s'ils doivent mettre un prix unique, bah, s'ils mettent des prix qui sont adaptés à un niveau de vie plus à l'ouest, ça va faire des prix beaucoup trop élevés pour les pays qu'on évoquait tout à l'heure. Et à l'inverse, s'ils mettent des prix qui sont adaptés à ces pays-là, eh ben, ils seront peut-être trop faibles pour les pays occidentaux. Et bon, ensuite, il y a des questions de rentrer dans ces budgets dans lesquels on ne va pas rentrer. Mais... Et puis, s'ils mettent un prix entre les deux, je pense que personne ne va être content. Donc, ce n'est pas un problème facile à gérer. À terme, l'idée... pourrait être que tout va s'équilibrer, on va voir des niveaux de vie, si ça se passe de la même manière partout, des niveaux de vie qui vont s'équilibrer et qui vont remonter dans les pays de l'ancien bloc de l'Est. Et ça serait le but final, mais dans l'immédiat, dans les quelques années à venir, je ne pense pas que ça fonctionnerait de cette manière. Donc, je ne sais pas, il y a une question intéressante là-dessus.
Oui, et puis l'équilibrage du niveau de vie, on parle de dizaines et dizaines d'années, tu vois, il y aura sans doute une uniformisation, mais regarde, même en France finalement, où c'est un pays relativement riche parmi tout le bloc de l'Union Européenne, finalement, bah, t'as des endroits qui sont beaucoup plus élevés et riches que d'autres. Donc imagine ça sur l'échelle d'un continent, j'ose même pas imaginer la complexité, le temps que ça va prendre. Ouais. Mais ouais, globalement, c'est une sorte de casse-tête. Je pense qu'il y aura probablement encore des écarts de prix, mais ils vont peut-être être réduits pour justement continuer à motiver peut-être les clients de l'Europe de l'Ouest à acheter sur les plateformes à plein impôt plutôt que de prendre un risque pour économiser 5-10 euros. Enfin, 10 euros, ça commence déjà à devenir important, mais 5 euros, tu vois, c'est une question que tout le monde va se poser, je pense.
C'est vrai, ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'en plus, évidemment, il y a la marge de la plateforme en question qui va te revendre le truc. Donc, si le prix est assez adapté, la marge est plus intéressante pour eux ou moins. Et donc, bon, bah écoutez, c'est un sujet qui est complexe, mais en tout cas, cette question du marché gris est une conséquence hyper intéressante, je trouve, de la décision. C'est pas directement lié, mais par par petite connexion, ça parle de la même chose. Bon, on peut parler un petit peu maintenant de Cyberpunk et des excuses renouvelées de... comment il s'appelle ? Ah, j'ai oublié son nom. L'un des deux cofondateurs... Deux ? Ils sont deux, je crois, cofondateurs
ils sont deux, ouais.
de CD Projekt. Et c'est Marcin Iwiński qui a donc fait ses excuses dans un petit message de 5 minutes. Il y a deux éléments à ça. Les excuses de Marcin, de M. Iwiński, et l'enquête de Jason Schreier. Alors, on va commencer par les excuses. Comment dire ? C'est bien qu'il s'excuse. Il a vraiment dit « c'est de notre faute, c'est le management, c'est nous qui avons pris les décisions, donc ne... » reprocher rien aux développeurs, c'est vraiment pas eux qui sont responsables de ça. J'ai pas vraiment l'impression que qui que ce soit reproché quoi que ce soit aux développeurs et que j'ai l'impression que tout le monde avait bien compris qui était responsable là-dedans, mais bon, c'est peut-être bien de le dire aussi, de le dire quand même. Ceci dit, ce qu'il dit sur les versions console est un petit peu plus curieux. Et il parle de la version PC qui, je crois, aujourd'hui, on peut dire qu'elle était effectivement buggée, trop buggée, c'est sûr, mais je pense qu'on n'était pas du tout au niveau de problème qu'on avait, qu'on a sur console. Donc, la version PC, ok, ils auraient peut-être dû la garder encore quelques mois dans le four pour qu'elle soit bien finie, mais c'est pas la première fois qu'on voit un jeu sortir avec des bugs. Il y en avait été peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, c'est un petit peu frustrant, mais voilà, ça passe. La version console, PS4 et Xbox One, par contre, la manière dont il en parle, c'est un petit peu... Comment dire ? Il dit, en fait, « Oh, on a énormément bossé, on bossait jusqu'à la dernière seconde, c'est pour ça qu'on n'a pas donné les versions de review aux journalistes seulement 2 jours avant la sortie du jeu, c'est pour ça. » Bon, c'est un petit peu capillotracté et moi, j'y crois pas trop, mais au moins, il dit quelque chose. Par contre, ce qu'il dit sur la qualité de ces versions consoles est, en étant généreux, un petit peu inexplicable et au pire, c'est hypocrite. Il dit on ne savait pas qu'il y avait autant de problèmes sur les versions consoles. Et c'est ça, son explication. C'est « Oh, on pensait que ça irait mieux, on ne savait pas que c'était aussi problématique. » Et oui, ils étaient en train de régler des problèmes et des bugs chaque jour et ils bossaient comme des fous pour en régler. Peut-être que 2 semaines avant ou 3 semaines avant, ils se sont dit « Ok, on va pouvoir y arriver. » Mais la veille du lancement ou 2 jours avant le lancement, tu sais bien à quoi ressemble ton jeu. Donc, je comprends pas. C'est même pas un niveau certain. On a beaucoup parlé sur Internet, ils sont en train d'accuser le QA, l'assurance qualité, de pas avoir bien fait son boulot. Non, moi, je crois pas que ça soit ça. C'est juste qu'ils disent on ne savait pas à cause du QA, parce que je ne sais pas. Ils impliquent pas vraiment, ils ne donnent pas d'insinuation que c'est le QA qui est responsable. C'est juste qu'ils disent on ne savait pas. Mais comment tu ne peux pas savoir ? Je veux dire, quand tu as construit un... Je suis sous la neige en ce moment, donc c'est l'image qui me vient. Quand tu fais un bonhomme de neige et que tu mets des boutons pour les yeux et une carotte pour le nez et un chapeau sur la tête, si c'est l'image du truc que tu voulais faire et que la veille de la présentation à tes parents, tu te rends compte qu'il y a un œil qui manque et que le chapeau, il s'est envolé, tu le regardes, tu vois bien qu'il manque un œil, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Bref. Ça, c'était les excuses de notre ami Marcin. L'autre... problème ou l'autre sujet sur Cyberpunk, c'est le rapport de Jason Schreier, qui a fait, comme d'habitude, comme on pouvait s'y attendre, un long rapport où il a parlé avec plein de développeurs de CD Projekt, une vingtaine. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que le jeu a été... Vraiment, le développement du jeu a été à peu près remis à zéro en 2016. Donc bon, ça fait quand même 5 ans, c'est assez long pour faire un jeu, on va dire. Mais surtout qu'il y avait c'était très mal géré et très mal organisé. Les développeurs faisaient des trucs sans savoir ce que faisaient les autres. Il y avait du travail qui était redondant. Il n'y avait pas de communication. Enfin, en gros, ils n'avaient pas de bons producteurs, on va dire, dans leur équipe. Ou en tout cas, ils ne faisaient pas leur boulot. Et il y avait des problèmes de, d'overtime, enfin de crunch, sur lesquels il appuie encore une fois. Il y avait plein de soucis chez CD Projekt. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Adam Badowski, qui est l'autre cofondateur, a répondu à Jason Schreier sur Twitter sur certains points spécifiques, mais qui étaient intéressants. Il disait notamment que la démo qui a été présentée je ne sais plus quand c'était. Enfin, il y avait une démo qui avait été présentée et disait c'était complètement fake. Jason Schreier, il disait c'est une démo qui n'avait rien derrière. Ce que dit Badowski, et je pense qu'il n'a pas tort, c'est que les démos, c'est toujours un peu du fake. C'est une vision, enfin, ça dépend de l'évolution du jeu, mais c'est toujours beaucoup de fake dans les démos. C'est ce que tu espères pouvoir faire, et puis les jeux changent parfois pas mal entre une démo et une version finale. L'autre chose qu'il dit, c'est qu'il a parlé que à 20 personnes, et la plupart étaient anonymes. Alors oui, évidemment qu'ils vont être anonymes, mais ils ne pensent pas qu'on puisse dire que c'est la voix de la majorité des 500 personnes qui travaillent dans la boîte. C'est un petit bémol qu'on peut accepter. Ça ne veut pas dire non plus que c'est une voix qui est forcément anecdotique. Mais bon, ok. Et puis en fait, ensuite, il y avait un sujet qui était que je comprends un petit peu, c'est Jason Schreier disait que beaucoup d'employés parlent polonais, alors que normalement, la langue de la boîte est l'anglais. Parce que, alors c'est une boîte polonaise, mais il y a des travailleurs de tous les pays. Et le polonais est normalement banni dans la boîte pour les communications professionnelles. Et Jason Schreier disait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que parfois ils se sentaient exclus et c'était très difficile dans la boîte parce qu'il y avait des gens qui parlaient juste polonais et qui les ostracisaient, si on peut s'exprimer comme ça. Et là, ce que dit Badowski, c'est oui, bon, toutes les communications pro sont en anglais. L'histoire du polonais, c'est quand même des gens qui sont polonais, qui vivent en Pologne, et on ne peut pas faire en sorte que personne ne parle jamais polonais. Ayant moi-même travaillé dans une société où on parlait surtout anglais, avec des gens de tous les pays, mais où il nous arrivait de parler français, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un petit peu, pas hypocrite, mais enfin, je ne pense pas que ça soit vraiment un argument valable. Et Jason Schreier en fait pas mal sur ce point dans son article. Là où ça devient encore plus intéressant, je trouve, c'est que Schreier a répondu sur Twitter à Badowski en lui disant simplement « Merci beaucoup pour les réponses ». Et Badowski était très poli aussi, on est dans une politesse convenue, c'est très très bien. Schreier lui dit « Merci beaucoup pour les réponses, juste pour préciser une chose, si tu voulais répondre, j'ai demandé plusieurs fois à ce que les gens de CD Projekt me parlent et personne n'a voulu me répondre. Donc toi y compris, enfin vous y compris, peut-être qu'il parle, il le vous voit. » Donc, si vous voulez parler avec moi et me répondre sur ces sujets, ça sera avec plaisir. Et je trouve que c'est assez bien dit, parce que c'est vrai qu'au final, s'ils veulent parler pour l'article, bon, Schreier est un petit peu à charge parfois, mais généralement, moi, j'ai trouvé qu'il était quand même assez juste quand il faut présenter les éléments qu'il a qui vont contre son point de vue. Et il le dit de manière assez éthique, quoi. Donc, bref. Voilà, pour le résumé de tout ce qui s'est passé sur CD Projekt, désolé, c'était un petit peu long, mais entre les excuses et l'article de Schreier que tout le monde attendait, bien sûr, ça faisait beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu as une réflexion là-dessus, Dany ? On a parlé de Cyberpunk tout à l'heure.
Mais... Non, mais globalement, je suis totalement d'accord avec toi sur tout. Et moi, le truc qui m'a fait tilter, pour l'avoir vécu moi-même, c'est le fait de dire « Ouais, bah, je travaille dans une entreprise polonaise, ils parlent entre eux en polonais, mais... » Bah, j'ai travaillé en Allemagne, comme tu te souviens, il y a longtemps, hein, chez Nintendo. Bah, ils parlaient en allemand, les employés germanophones. Hein, bah, qu'est-ce qui empêche en fait de faire l'effort d'apprendre la langue et de faire des progrès, etc. Et voilà, c'est aux étrangers de faire l'effort de parler la langue locale s'ils veulent se sentir inclus. Et s'ils veulent pas ou qu'ils le font pas, bah, on peut pas vraiment se plaindre. Et moi, ça me fait un peu tilter de lire ça, tu vois. Je comprends pas ce mode de fonctionnement et de s'en plaindre après.
Ouais, c'était un détail dans l'article de Schreier, mais c'est vrai que ça m'a fait tilter aussi parce que j'étais dans cette situation. Et bon, c'est vrai que c'est difficile quoi de le leur reprocher, surtout si, comme c'est le cas, les communications sont majoritairement en anglais. Nous aussi, on bossait très souvent en anglais, majoritairement en anglais. Et oui, à un moment, tu peux pas leur reprocher de parler leur langue quand ils sont ensemble.
Bien sûr.
Tu vois, si tu rentres dans le groupe, moi, généralement, quand il y avait un anglophone qui arrivait dans le groupe, on commençait à transiter vers l'anglais et voilà, c'était...
Et tu vois, s'il avait marqué dans l'article en disant ça, par exemple, et en plus, c'est des projets que ne payent pas, par exemple, des formations ou des cours de polonais à ses employés. Là, j'aurais dit, ouais, ok, bof, mais vu la taille de l'entreprise, je suis quasiment certain que ce soit le cas.
Ouais. Bon, après, donc, ça, c'est vraiment un détail de l'article. Hein.
On a été dans cette situation. Le reste, effectivement, tu vois, le coup de la démo, bon, c'est pas les premiers ni les derniers à faire ce genre de choses, hein, tu vois, c'est toujours un peu délicat. Et bon, ensuite, moi, ce qui m'embête un peu dans le résultat, c'est que finalement, il y a eu une superbe campagne marketing avec un jeu qui n'a pas était à la hauteur derrière. Et pour moi, c'est le plus gros regret. Ensuite, on pense ce qu'on veut du jeu, au global, tu vois, mais je pense que le fait de lancer les versions console en l'état, moi, c'est le truc qui me choque le plus dans le lot. C'est une décision probablement très, très mercantile, mais en fin de compte, je pense que c'est des projets qui vont devoir montrer patte blanche pendant longtemps, et je l'espère, pour que ses clients commencent à lui redonner confiance.
Complètement, ouais.
Oui, et que ce soit pas genre Witcher 4, regardez, il a l'air trop beau, trop cool, et qu'on ait la même discussion dans quelques années avec un jeu plein de bugs. Et,
ouais, bah, je pense pas. Hein. Là, je pense que... Il y a deux choses. D'une part, commercialement, comme on le disait la semaine dernière, si on regarde seulement cet aspect, ils ont eu raison de le sortir. C'était une catastrophe et on l'a âprement critiqué ici. Mais ils en ont vendu, combien on disait la semaine dernière, 20 millions, quelque chose comme ça. Faut que je retrouve les chiffres, mais ils en ont vendu quelque chose comme 20 millions trois semaines après le lancement. Donc, ils ont clairement fait des chiffres de folie. Et s'ils l'avaient lancé sur PS4 et Xbox après, genre un ou deux mois après, d'une part, ça aurait peut-être pas suffi, je pense pas. Et puis d'autre part, ils auraient pas eu le buzz du lancement, donc... Voilà, ils auraient simplement pas fait autant d'argent, c'est immoral ou amoral.
Ils ont totalement eu raison, hein. Ils ont eu totalement raison. Je pense qu'ensuite, au niveau image de marque et confiance vis-à-vis de ta clientèle, c'est peut-être problématique pour nous qui sommes très proches du marché du jeu vidéo, on lit les news, on s'y intéresse, mais finalement, pour monsieur et madame tout le monde qui dit « je vais offrir à mon petit-neveu à Noël Cyberpunk », je pense que... ça va gêner personne, malheureusement. Et tu vois, sur les 20 millions de ventes, hein, finalement, je pense que si un jour les chiffres, les scores du nombre de gens en fait qui ont annulé leur commande sur une des deux consoles font surface, on pourra voir la proportion de gens qui étaient vraiment mécontents par rapport à ces 20 millions.
Alors, c'est pas 20 millions, pardon. Pardon. Alors, je sais plus. Bon, pardon. Ce que je veux dire, c'est que ça tenait compte des remboursements.
Ça prenait compte... Oui, bien sûr. Mais justement, mais quelle est la proportion, en fait, des remboursements? Est-ce que le jeu aurait vendu 30 millions et 10 millions de gens qui ont demandé des remboursements? Ou est-ce qu'on parle de quelques dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes? C'est beaucoup, mais ça montre aussi la proportion et l'ampleur du buzz ou du bad buzz qu'il y a autour du jeu par rapport à vraiment l'impact que ça a eu sur les acheteurs.
Alors écoute, moi j'aurais dit, je pense qu'ils ne vont pas réussir à se rattraper. Ouais, c'est 13 millions, hein, je crois bien. C'est 13 millions qu'ils ont annoncé à la fin de l'année, 10 jours après le lancement, en prenant compte des remboursements. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on n'avait pas eu l'exemple de Hello Games avec No Man's Sky, j'aurais été beaucoup plus inquiet pour CD Projekt. CD Projekt, je ne sais pas comment le dire. Si on n'avait pas eu l'exemple de Hello Games, parce qu'ils ont tellement bossé chez Hello Games pendant 3 ans, en amenant des mises à jour tous les ans énormes et en continuant au-delà du moment où on s'était dit vraiment là, c'est bon. Ils ont continué à en amener encore. Je me dis, c'est possible. Tu vois, si maintenant, pendant 3 ans, ils font rien d'autre que mettre des trucs super cool gratuitement sur Cyberpunk, alors peut-être qu'on se dira, ok, bon, vous avez racheté notre confiance. Maintenant, il ne faut pas
que c'est un peu ce qu'ils ont fait sur Witcher aussi. Hein. Tu vois, Witcher était.
Oh, Witcher 3 n'est pas sorti aussi cassé.
Mais non, non, pas aussi cassé. Mais ils ont continué à donner du contenu de qualité, soit gratuitement, soit avec des DLC de haute volée pour pas trop cher pendant des années. Et finalement, c'est ça qui a construit aussi la solidité et la confiance du marché dans leur jeu. Mais bon, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais le truc, c'est que. Enfin, tu vois, quand va arriver le premier vrai patch sur les consoles, quand vont arriver les nouveaux effets sur PS5 et Xbox, oui, il y a eu des annonces, mais on en reparlera quand ils seront vraiment implémentés. Voilà,
ça a été décalé à la deuxième moitié de cette année. Donc,
Mais c'est aussi pour eux, à mon avis, des sortes de mid-life kicker, en fait, pour pouvoir relancer un peu l'avidité du jeu et pour pouvoir relancer les ventes.
Je connaissais pas ce terme. C'est un terme marketing, mid-life kicker.
Oui, par exemple, par exemple, tu vois, Intel, quand ils sortent des processeurs avec juste des changements de fréquence, sans des gros renouveaux d'architecture, finalement, c'est un mid-life kicker. Ouais. Et c'est pour dire, voilà, tu gagnes 0,1 gigahertz. C'est vachement mieux que celui que tu pouvais acheter il y a deux mois. Bien sûr. C'est un mid-life kicker.
Bon, écoutez, on verra. Moi, j'espère que maintenant, on ne va plus entendre parler de CD Projekt et de Cyberpunk pendant quelques mois et que dans 6 mois, ça y est, maintenant.
parce que je vous avoue. J'en ai assez, on a tout dit sur Cyberpunk, j'en ai marre.
Bon, écoutez, parlons plutôt maintenant du Patreon. Patreon, vous savez ce que c'est le moyen de soutenir l'émission. Et si vous voulez un vrai mid-life kicker, vous voulez que je vous répète que Patreon a une promotion en ce moment, enfin c'est pas Patreon, c'est le Patreon du rendez-vous jeu qui a une promotion bonne résolution. Si vous voulez soutenir un contenu que vous appréciez et un travail qui est quand même conséquent, vous savez, trouver quelque chose à dire encore sur Cyberpunk après un mois non-stop, c'est pas facile, il faut travailler là-dessus. Donc on fait tous nos efforts. On fait tous nos efforts et on les met dans le rendez-vous jeu. Et si vous voulez soutenir ce contenu que vous appréciez, vous pouvez le faire par Patreon. Patreon, c'est un système super simple où vous décidez combien vous allez soutenir par épisode. Vous pouvez choisir 1 euro, 2 euros, ce que vous voulez. Et vous avez des contreparties en conséquence, notamment les time codes pour passer une partie que vous aimez pas, vous avez des contenus étendus, vous avez des contenus spéciaux, etc., etc. Et là, il y a une promotion qui vous donne accès au niveau qui donne accès au Discord privé, à la participation aux after shows. Qui est à un prix réduit. Vous pouvez aller voir sur patreon.com/rdvjeux et bien sûr, vous conserverez ce prix réduit quand la promotion va disparaître. Ce qui arrive très bientôt, les enfants. Il ne faut pas attendre plus longtemps. Si vous aviez entendu au début du mois, vous avez dit « Oh, c'est bon, j'ai le temps », maintenant, vous n'avez plus trop le temps. Donc, patreon.com/rdvjeux. En plus, le lien est dans les notes de l'émission, donc vous pouvez y accéder très facilement, y compris de votre téléphone mobile. Donc, soit vous pouvez le faire tout de suite, soit vous pouvez le faire quand vous rentrez chez vous et quand vous mettez les clés dans le bol et que ça fait « cling » et vous vous dites « Patrick ». Clique Patrick, et vous pouvez profiter de la promotion si vous n'êtes pas encore soutien du rendez-vous jeu. Entre parenthèses, un autre des bénéfices, c'est que vous n'avez pas les pubs et pas cette petite partie promo au milieu. Donc voilà, c'est un des... Ah bah il y a des gens dans la chatroom qui disent « Allez, je m'abonne !» Bah merci beaucoup, merci à vous. Et merci à vous tous de considérer cette idée peut-être de soutenir un contenu que vous appréciez. Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. Ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est peut-être de commencer par le rendez-vous jeu, mais peut-être même de vous dire, il y a peut-être d'autres émissions, d'autres podcasts que j'aime bien, que j'écoute et qui ont aussi un Patreon. Et pourquoi pas vous dire que vous allez soutenir plusieurs émissions et vous faire un petit budget, pas énorme. Hein, moi, j'ai un budget comme ça qui est... alors moi, je suis dans la création de contenu, donc j'aime soutenir les gens que j'aime bien. Donc, j'ai quelques dizaines d'euros, mais vous n'êtes pas obligé de faire un truc énorme et vous dire, voilà, là, je vais me faire un budget pour soutenir les indépendants, les artisans que j'aime bien. Et allez voir du côté des autres comptes Patreon qui peuvent exister. Il peut y avoir des gens que vous aimez bien. Et comme ça, vous ferez d'une pierre plusieurs coups et vous ferez une vraie bonne résolution. patreon.com/rdvjeux pour vous lancer.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, autre sujet que je voulais évoquer extrêmement important, les jeux auxquels on a joué. Tu me dis que Scott Pilgrim, c'est pas ton truc, hein, c'est ça ?
Non, et pourtant, j'aime bien le... Tu vois, on avait parlé dans les GOTY de Street of Rage 4.
Ouais.
Donc, je me suis dit, bah, je vais tenter. Ouais, il est un peu... Il est mignon, mais j'étais un peu déçu, en fait.
C'est un jeu de 2010, hein, Scott Pilgrim, quand même.
Oui, je sais. Mais à l'époque, j'y avais pas joué, je l'avais pas vu. Finalement, ouais, bon, je n'ai pas raté grand-chose.
Ouais, bon, tu n'y as pas beaucoup joué. Il n'y a pas énormément de jeux en ce moment. Hein. Il y a le The Medium qui arrive, mais on est dans une... je ne vais pas dire un creux, parce que ça serait un peu violent, mais... On n'a pas énormément de jeux qui sont sortis depuis la rentrée.
Il y a Hitman 3, mais à part c'est...
C'est pas mon truc, Hitman, j'avoue. Hein.
Non, c'est pas mon truc. Moi, de toute façon, je suis trop bourrin pour aller balader derrière les mecs, les cacher des cadavres, et tout, ça me saoule. Donc, c'est pas trop mon genre de jeu.
Je t'avoue que... Il y a énormément de gens qui sont super fans de Hitman et qui vont me dire « Mais comment oses-tu dire qu'il n'y a pas eu de sortie ?» Mais c'est vrai, moi c'est pareil, c'est tellement... Je l'ai testé, hein, Hitman, et c'est tellement pas mon truc. Au bout de 10 minutes, je me dis « Ah bon, il faut que je shoote quelqu'un là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» J'arrive pas à rentrer dans... Il y a quelques catégories de jeux comme ça qui sont pas pour moi. Donc ouais, moi ça me parle pas, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme des fous à essayer de conquérir tous les niveaux en mode silent assassin maximum. C'est pas ton truc aussi.
Oh, ça j'y arrive pas, non, c'est l'ennui absolu. Hein. Moi c'est au contraire, hein. J'y vais avec des gros flingues et je tue tout le monde en hurlant et ça devient très très difficile parce que j'étais pas du tout, le jeu est pas designé pour ça, donc c'est normal, il te pousse à être en fufu tout le temps, mais j'y arrive pas. Ouais. Et tu vois, dans la chatroom, y a quelqu'un qui a mentionné, moi, un jeu qui me tente bien, que j'attends, bah, c'est Mario, en fait, sur Switch. Surtout pour jouer à la version Bowser.
Bowser's Fury en étant Epic Mario Kart. Epic Mario 4. C'est l'un des jeux que j'ai mis dans ma liste des combien, 15 ou 18 jeux que j'attends avec impatience en 2021, qui est ma dernière vidéo YouTube. Si vous êtes intéressé par ça, c'est sur youtube.com/notepatrick, bien sûr, comme toujours. Mais Mario, j'en parlais la semaine dernière. Mais ça, c'est le 12 février, mais moi, je l'attends. Tu ne l'avais pas fait sur Wii ?
Si, bien sûr, je l'ai retourné dans tous les sens. Et honnêtement, il n'y avait pas Bowser Fury. Donc déjà, c'est un bonus sympa. Mais déjà, de base, je me disais, pourquoi pas refaire le jeu maintenant sur Switch. Ouais. Donc c'est pour dire la qualité du jeu et... Il est juste un des meilleurs jeux de plateforme auxquels j'ai joué depuis je sais pas combien d'années. Et le fait de pouvoir y jouer à 4, c'est super sympa.
Écoute, je sais pas si j'aurai des gens avec qui jouer à Mario. Peut-être qu'on fera un truc sur le stream, puisqu'on peut jouer en ligne avec cette version. Peut-être.
Alors attends que je m'entraîne d'abord pour que je te montre un peu comment jouer.
tu veux découvrir tous les moyens de griffer les autres joueurs, genre en les poussant dans le vide.
Le pousser dans le vide, exactement, ouais, c'est ce que j'avais mentionné, t'as bien... tu vois clair dans mon jeu.
Bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Moi, j'ai testé un jeu qui s'appelle Yaga, qui est à une vingtaine d'euros sur Steam, dont j'ai entendu parler dans un autre podcast que j'aime bien. Et C'est un petit roguelite très original. J'ai pas beaucoup joué. Hein. C'est vraiment un jeu que je, comment dire, que j'ai testé comme ça pour voir ce que ça donnait. Il est disponible également sur PlayStation, visiblement, et peut-être sur d'autres plateformes. Je vous avoue que j'ai pas bien regardé, mais il a un look et un folklore assez original. C'est vraiment, on parlait des pays de l'Est tout à l'heure, c'est un petit peu ancré dans cette culture-là. On est un forgeron qui a perdu un bras et qui peut mettre des armes spéciales sur son bras et qui est manipulé ou tourmenté par les Baba Yaga. Il y en a trois. Mais c'est assez intéressant la manière dont il gère l'intégration entre les mécaniques du jeu et la narration du jeu. Ça ne va pas jusqu'à la maîtrise de Hades, bien sûr, mais la manière dont les bonus, par exemple, d'un run sont intégrés dans la narration du jeu, on peut choisir un bonus, mais c'est les trois Baba Yaga qui vont dire « Oui, c'était tel jour, donc il était plus fort, il se passait tel truc, donc les ennemis étaient plus faibles. » Et tu vas choisir quelle version de l'histoire elle raconte. Il y a ce genre de choses. C'est beaucoup de travail, je pense, qu'ils ont fait, les développeurs. Il y a vraiment quelque chose d'original. C'est des graphismes en... C'est pas du papier animé, c'est du... Ouais, un petit peu, je sais plus, il y a un jeu il y a pas longtemps qui m'avait fait penser un petit peu à ça. Ah bah d'ailleurs, je crois que c'est un petit peu comme l'impression que m'avait donné Ghosts and Goblins, le remake. Sauf que là, c'est beau. c'est un petit peu différent. Mais voilà, c'est un petit jeu que j'ai testé, il est à 20€ sur Steam. Je l'ai testé vraiment pas longtemps, donc je peux pas donner d'avis sur le jeu en lui-même. D'après ce que je comprends, le gameplay est pas à la hauteur, mais le travail artistique est intéressant. Donc je voulais le mentionner. Et puis j'ai aussi downloadé Crusader Kings 3, mais je l'ai même pas lancé parce que j'ai pas eu le temps et que je suis en train d'essayer de faire en sorte que mon PC fonctionne. Bon sang de bois. Voilà, bon, à part ça, effectivement, il n'y a pas énormément de jeux à mentionner, je crois. Par contre, des annonces. On me dit dans la chatroom qu'il est sur Apple Arcade. Ah, c'est deux choses. D'une part, c'est cool. Merci, j'en ai marre de le mentionner, parce que du coup, les gens qui sont abonnés à Apple Arcade pourront le tester. L'autre truc, oui, Crusader Kings, il est sur le Game Pass. C'est pour ça que je l'ai downloadé. Mais l'autre truc, c'est que encore une fois, ça montre à quel point on ne sait pas ce qui est sur ce putain d'Apple Arcade. Bref, il y a d'autres news. Et la news qui a fait hurler de joie tous les gens qui ont soit 5 ans de plus que moi, soit 5 ans de moins que moi, parce que moi je suis dans la tranche d'âge où je pensais que Pokémon c'était pas cool et donc je suis pas plongé dedans, c'était pour les enfants quand c'est sorti et que moi j'étais un jeune adulte trop cool pour
Pokémon. T'avais déjà 45 ans, c'est ça ?
Exactement. Pokémon Snap va sortir sur Switch le 30 avril. Je vous avoue que ça me fait un peu bâiller, cette annonce, mais bon. Dany, toi qui as travaillé littéralement sur Pokémon à la traduction à la grande époque.
J'ai travaillé sur Pokémon Snap, même à l'époque. Hein, donc,
ah oui, même
déjà,
sur Pokémon
à l'époque,
Snap.
Le jeu ne m'intéressait pas des masses, alors que j'aime bien Pokémon. Mais ouais. Le fait de faire un safari photo sur un rail pour trouver des photos sympas, ça me parlait pas trop. Bon, ensuite, le jeu a eu beaucoup... il a eu son succès, donc je pense qu'il y a pas mal d'attentes et que graphiquement, il a l'air sympa, mignon et tout, mais c'est trop passif pour moi comme genre de jeu.
On est un petit peu d'accord, c'est un peu comme Hitman où il faut attendre, être discret, se balader et tromper l'ennemi. À un moment, tu veux sortir ton flingue. Bon, Pokémon, sortir le flingue, c'est pas forcément l'activité principale, mais à un moment, t'as envie d'être un petit peu plus actif, on va dire, dans ce genre de jeu. Enfin, moi...
Exactement, et pour moi, l'intérêt des jeux Pokémon, c'est que tu captures ton Pokémon dans la Pokéball, et ensuite tu détruis la Pokéball avec le Pokémon intérieur, et là, ça devient super bien.
Bon, voilà pour cette annonce. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Ghost and Goblins Resurrection va nous faire... Ah, alors là, ça te parle plus. Il y a eu une petite vidéo de présentation. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais je voulais le mentionner parce que je savais que tu serais là. Donc, je me suis dit, ça va te plaire. On a eu une petite vidéo de présentation des ambitions du jeu. Bon, voilà, c'est juste pour dire Ghost and Goblins pendant que Dany est là. Le truc à mentionner, c'est que ils veulent faire un truc qui rappelle vraiment le jeu d'origine, surtout dans les premiers niveaux, mais ils veulent essayer des choses un peu différentes au fur et à mesure que le jeu avance. Donc, ça risque d'être intéressant. On voit notamment des combats de boss assez originaux. Donc, bon, bref. Moi, je pense que ça sera pas non plus...
J'y jouerai de toute façon. On verra. J'aime Ghosts and Goblins, j'ai joué à quasiment tous les épisodes, donc j'ai hâte d'y rejouer. Graphiquement, j'aime vraiment, vraiment pas le style et le design. Bon, ensuite, on verra ce que ça donne, tu vois, en gameplay, puis ça se trouve, je changerai d'opinion à ce moment-là, mais je pense que j'y jouerai day one.
Bah écoute, le gameplay, il va être assez similaire à ce que tu connais, je pense, oui. Et tu vas pas devoir attendre trop longtemps, c'est dans un mois, hein, le 25 février, oui. Donc il arrive. Quoi d'autre dans les news ? Il y avait également... Stalker 2, dont on a vu un petit peu plus d'images, je le mentionne parce que je sais qu'il est censé sortir cette année, mais comme on le disait à l'épisode précédent, Stalker 2, j'y crois, mais alors, j'allais dire zéro, c'est un peu trop peut-être, mais j'y crois vraiment pas. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a Stalker 2 d'une part et Atomic Heart, qui est également un... Je me demande s'il n'y a pas un sous-genre des FPS russes. C'est Stalker, Atomic Heart et Metro. Et Atomic Heart, ça a l'air d'être un petit peu la version arcade de Stalker. Genre, c'est beaucoup plus fun, c'est très rétrécé et ça a l'air assez beau. Mais c'est vraiment le FPS, bah, je sais pas, le FPS russe, quoi. C'est les
bah, tu
monstres.
Tu sais, il y a un gros marché en Europe de l'Est, hein, si ça se trouve. Bah, ça ne nous parle pas forcément à nous, mais peut-être effectivement à nos voisins de. Quelques centaines, quelques milliers de kilomètres d'ici. Hein.
Ouais. Mais je pense, enfin, ouais, pour moi, c'est quelques centaines. Hein, mais
ouais, c'est vrai, c'est des voisins. Hein,
c'est des voisins, oui. Ouais. Je les aime beaucoup, évidemment. Mais j'imagine qu'il y a quand même un truc culturel, parce qu'il y a des caractéristiques communes dans la manière dont tous ces jeux représentent la violence et les styles de jeu qu'ils utilisent. Et je sais pas, ça serait intéressant d'étudier ça.
Et regarde, tu vois, par exemple, World of Tanks, le free-to-play, etc. Bah, il y a un succès massif dans tout ce qui est Europe centrale, Europe de l'Est, hein, alors que finalement, par chez nous, c'est pas au même niveau. Et donc, ouais, je pense que culturellement, il y a une façon d'envisager le jeu vidéo et les
goûts différent.
Qui est, enfin, culturellement, mais c'est à des années-lumière, hein, c'est dingue. Hein.
Ouais. On me précise ou on veut que je mentionne dans la chatroom que Stalker est un RPG autant qu'un FPS. Effectivement, peut-être que certains auraient pu être induits d'erreur. Bon, il y a des mécaniques RPG également dans le jeu. Hitman 3, on en a parlé. Juste un autre petit mot pour mentionner que c'est le premier jeu, à ma connaissance, à utiliser, peut-être qu'il y en a eu un autre, mais je l'ai oublié, à utiliser la fonction de partage de save state qui permet en fait sur Stadia spécifiquement, de partager en fait un endroit du jeu où on est avec quelqu'un et d'avoir pile exactement à la microseconde près exactement la même partie que nous avec tous les objets, en fait c'est vraiment une sauvegarde de la RAM du jeu, on envoie une URL qui correspond à cette RAM et donc vous pouvez relancer le jeu à ce moment exactement comme la personne qui vous l'a envoyé l'utilisait et il y a était en train de jouer, c'est vraiment comme une sauvegarde pile à la microseconde près. Ça risque d'avoir des utilisations intéressantes, je pense surtout aux streamers, mais pas que. On peut imaginer quelqu'un qui utilise ça pour proposer des challenges ou dire « moi, j'étais dans cette situation, qu'est-ce que vous auriez fait ?» Enfin, avec un petit peu d'inventivité, ça pourrait être intéressant. Ça peut également ne rien donner du tout, mais l'idée est intéressante en tout cas. Allez, quelques news en plus. Opera, le navigateur, a acheté un middleware qui s'appelle GameMaker Studio. c'est un middleware, donc un des outils de développement, qui ont été utilisés par pas mal de gros de jeux qu'on connaît. Il y a Katana Zero, Hyper Life Drifter, Undertale, Nuclear Throne, Downwell, enfin plein de petits jeux qui ont utilisé cet outil de développement. Et c'est Opera qui l'a acheté, c'est un navigateur. Qu'est-ce que Opera veut d'un outil de développement? Je ne sais pas. Ils avaient sorti Opera DX, qui est un navigateur optimisé pour le jeu vidéo. Alors, c'est un petit peu gadget, mais il y a quelques éléments qui sont sympathiques. Mais c'est une société finlandaise, Opera, et je pense que les Finlandais sont très friands de jeux vidéo. Je me demande s'ils ne vont pas utiliser ça pour, je ne sais pas, d'autres choses que juste le navigateur. Ils sont en train peut-être de se dire, dans le jeu vidéo, il y a des choses à faire. Peut-être des moyens de développer des choses vidéoludiques plus facilement dans les navigateurs. Ça pourrait être intéressant, le retour des jeux navigateurs. Flash n'a pas été vraiment remplacé par le HTML5 qui offre moins de possibilités. Peut-être qu'il y aurait un truc à faire là-dedans. C'est peut-être l'une de leurs ambitions. Mais c'était un achat que j'ai trouvé intéressant. Parce que c'est vrai qu'on n'a plus les jeux Flash. Il y a des choses qui sont possibles de faire en HTML, mais les entre guillemets jeux Flash, c'était quelque chose qui était un vrai marché, quoi. Donc, bon, à voir.
C'est complètement mort, hein. Enfin, ouais, c'est fou comment c'est passé de... Il y en avait des tonnes et des tonnes, il y a quoi, enfin début des années 2000, hein. Ouais. Enfin, maintenant, ça ne court plus les rues.
Le projet Mara a été présenté par Ninja Theory. Le projet Mara, c'est le prochain travail du studio qui a développé... Le truc psychologique.
C'était, oui.
Avec le 2 qui est...
Machin qui a... Revenge.
Non, mais non, pas Revenge.
Non.
La chatroom se gosse et ne va pas tarder à nous répondre.
Je me suis rarement autant ennuyé que
nous. Oh mon Dieu.
Malgré les super critiques.
Attends, mais oui. Hellblade.
Oh, comment
Hellblade.
Je suis fort.
Tout à fait. Mais donc, c'est surtout, ils font un moteur qui essaye de recréer exactement... leur bureau, en fait. Et on voit quelques images de leur bureau et de la manière dont c'est recréé dans leur moteur. C'est hyper, hyper impressionnant. Je ne sais pas à quel point... Enfin, c'est un studio qui appartient à Microsoft, donc maintenant, ils vont le faire... ça tournera sur Xbox. Mais il y a une qualité de modélisation... qui est vraiment, vraiment impressionnante. Je suis curieux de voir ce que ça donnera en jeu, mais c'est quelque chose, c'est presque de la recherche et développement, la manière dont ils modélisent spécifiquement les bureaux avec du mappage, avec des points en 3D, enfin, c'est de la réalité augmentée presque. Et la modélisation en jeu est saisissante, c'est du photoréalisme, quoi. Donc, je suis curieux de voir si ça pourra être le moteur qui tournera en jeu concrètement, ou si ça sera quelque chose de moins puissant qui tournera dans le jeu lui-même, mais les images sont très impressionnantes. Donc, je mettrai dans les notes de l'émission, pas dans les notes, dans la newsletter, donc allez vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com, je mettrai le lien vers la vidéo. Quoi d'autre ? Il y a les Yakuza Collection, le 4-5-6 qui arrive dans le Game Pass. Il y a The Medium qui arrive également ce mois-ci. Donc, du beau contenu dans le Game Pass, je voulais le signaler. Il y a également, possiblement, Apex Legends qui arrive sur Switch. Il y a eu un leak, un post involontaire peut-être, qui pouvait annoncer l'arrivée de Apex Legends dans les jours à venir. Et surtout, il y a Dead Cells qui est... disponible gratuitement sur Switch entre le 26 janvier et le 1er février, et avec le nouveau DLC. Si, pour une raison incompréhensible, vous n'avez pas encore joué à Dead Cells et que vous avez une Switch, écoutez, prenez-le entre le 26 janvier et le 1er février, parce que c'est un jeu auquel il faut avoir testé, quoi. Donc, dans quelques jours, il sera disponible gratuitement pendant une semaine. En plus, il y a le DLC qui sera disponible et qui en plus sera en prix réduit avec le deuxième DLC si vous voulez l'acheter. Moi, j'avais déjà acheté le premier. C'est un bundle avec les deux DLC à prix réduit. Moi, j'avais déjà acheté le premier, je crois, juste pour soutenir Motion Twin. Je pense que j'achèterai le deuxième, même si c'est des trucs un petit peu trop difficiles qui sont au-dessus de mes capacités à moi. Et enfin, la surprise pour personne, l'ouverture du Super Nintendo World à Osaka a été décalée à cause de la pandémie.
C'est une mini-catastrophe, ça, hein, parce que moi, j'ai hâte que le Japon rouvre ses frontières, parce que le Super Nintendo World m'attend.
J'arrive pas à savoir si tu es ironique ou sérieux.
Non, mais j'ai vraiment y aller. Ouais. J'ai même regardé la vidéo où t'as
c'est vrai
plutôt, qui se balade dedans. Je trouve ça génial, c'est fantastique. Bon, ça me parle vachement plus que l'univers Disney, par exemple.
Écoute, si tu peux attendre, on va dire, 2 ans, comme ça, on sera vraiment sûr que la pandémie sera terminée. On pourra y aller avec vous et on prendra nos 2 enfants. Dont le deuxième sera assez grand pour voyager et tu pourras nous les garder pendant que nous on sort manger des ramen.
Très bien, et ben c'est pas de problème, hein, pas de problème. Mais bon, au rythme où ça va, je sais pas si on pourra
se retrouver 2 ans
là-bas avant 5 ou 6 ans. Hein, mais...
Écoute, ils seront que plus grands, donc ils pourront se garder tout seuls. Du coup, nous on pourra aller manger des ramen pendant que eux.
Je leur apprendrai toutes les insultes en multilingue que je peux connaître.
Dernière news, je la mentionne quand même. Je vais mentionner chaque semaine, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage présenté pour King of Fighters 15. Il y a eu un nouvel personnage présenté pour King of Fighters 15. Voilà, maintenant vous savez. Et c'était la dernière news de cette émission. Merci beaucoup, Dani, pour ta participation. Comme d'habitude, ça a été t'avais dit un déplaisir en début d'émission, mais je vais être honnête. C'était pas désagréable. Donc, merci d'avoir été avec nous.
Oh, quelle joie, quel bonheur. J'espère qu'on aura la prochaine fois, tu vois, plus de choses à débattre ou à discuter de manière écoute, un peu intense, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de Ghosts and Goblins sur Switch, par exemple?
Eh ben,
on en parlera dans un mois.
C'est ça. Je sais pas si il sera sorti pour notre prochain épisode, mais Mario sera sorti, donc je suis sûr qu'on pourra en parler à tous les épisodes
obligé.
De l'année.
J'ai précommandé depuis des mois, hein, donc.
Très bien, très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, dis-moi?
Eh ben, sur Twitter, mon handle c'est @notdani. J'ai aussi un Instagram dont je ne me sers non plus pas énormément, mais j'ai le même handle, donc c'est facile de m'en trouver. Je poste en général quasiment que des conneries.
Excellent. Donc, si vous voulez lire les conneries de Dani, vous pouvez aller sur Twitter ou Instagram. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous rappelle également que j'ai une chaîne YouTube absolument formidable qui a atteint il y a peu les 10 000 abonnés. Rendez-vous compte, 10 000 abonnés, si vous n'en faites pas partie, vous pouvez aller regarder la dernière vidéo qui parle des jeux que j'attends le plus en 2021. Une vidéo assez sympathique, je trouve. Et vous pouvez également, bien sûr, soutenir le rendez-vous jeu avec cette promotion qui va bientôt disparaître des bonnes résolutions, la promo bonne résolution. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire depuis votre mobile. Donc, voilà, bonne résolution Patreon pour le rendez-vous jeu ou d'autres créateurs que vous appréciez. Si vous créez un compte sur Patreon, eh ben, vous pourrez soutenir plusieurs personnes. Et croyez-moi, chaque euro compte. C'est comme ça que ce contenu existe. Donc, un grand merci à vous tous. patreon.com/rdvjeu. Bah écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour l'after show dans un instant pour les gens qui sont soutiens de l'émission. Ciao, à très vite. Ciao, ciao.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds.
Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.